Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Le Goût d'Entreprendre. Ces pantalons ont fait le tour du monde. C'est une marque française qui, malgré les tempêtes, est toujours debout. Le président de l'entreprise, Bruno Saint-Hilaire, est notre invité. Fabrice Dor a fait toute sa carrière dans l'univers du textile, un secteur où l'innovation fait toute la différence. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on dit Bruno Saint-Hilaire, marque française, née en Haute-Garonne, mais aussi élégance et confort et costume masculin? Bonjour Fabrice Dor.
Bonjour.
Vous êtes le président de Bruno Saint-Hilaire. Comment se situe votre entreprise aujourd'hui dans le secteur du textile? Je vais être un peu plus précise. Est-ce que vous êtes une grosse entreprise ou une petite entreprise?
Nous sommes une petite entreprise avec une grosse réputation, ouais, on va dire, et qui, dans les quelques dernières années, a eu plus de difficultés comme le secteur. Disons que je pense que l'entreprise a besoin de, pour continuer, de maintenir ses grandes ambitions et sa modestie. Sa modestie parce que ça fait partie des gènes de l'entreprise.
De vos valeurs.
C'est une entreprise sérieuse, ambitieuse et modeste. Ça paraît étonnant, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Alors, c'est-à-dire que vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise ?
L'entreprise emploie une centaine de personnes, y compris les personnes qui sont à la vente. Et évidemment, c'est plus facile de croître dans cette partie-là quand on fait un peu de développement.
On va en reparler au cours de cette, au long de cette émission. Alors, je disais en introduction, vous avez tenu le choc malgré les tempêtes. Vous avez été contraint, il y a quelques années, à l'entreprise de déposer le bilan.
Oui, alors, pour préciser les choses, je travaille dans cette entreprise en tant que directeur commercial, marketing et collection, il y a une vingtaine d'années. Et puis, l'entreprise, dans les années précédentes à mon arrivée, a eu de très grosses difficultés qui l'ont pratiquement conduit au dépôt de bilan. Donc, elle s'est retrouvée en plan de continuation, dans un deuxième temps. Un plan qui, au début, aurait pu échouer et qui, finalement, a fonctionné. J'ai rejoint l'entreprise avec Vincent Lefebvre, qui est aujourd'hui mon associé, fin 2012.
D'accord.
Et depuis, nous sommes en plan de continuation, mais avec quelques améliorations dernièrement qui permettent à l'entreprise de se projeter beaucoup plus sereinement vers l'avenir.
Qu'est-ce que vous avez amené, Fabrice, à votre retour? Vous avez impulsé une nouvelle dynamique, de nouveaux concepts?
Non, je pense pas que nous ayons apporté de nouveaux concepts, mais on a remis les choses en place et on a redonné de l'importance aux fondamentaux de l'entreprise en se tournant vers l'avenir. Et dans ces fondamentaux, il y avait la recherche et le développement. Donc évidemment, on est revenu vers la recherche et le développement, on est revenu vers nos valeurs ajoutées, vers nos différences. C'est important, surtout sur un marché qui est actuellement très secoué et qui est très compliqué.
Le textile, le secteur textile est un univers impitoyable.
Alors, certainement, un univers impitoyable, ne serait-ce que par ses rythmes qu'il faut savoir suivre, et puis cette projection toujours vers les tendances et vers l'évolution nécessaire des produits, tout en restant ancré sur des fondamentaux solides. Je dirais qu'une fois que tout est organisé, que tout est parfait, que tous les produits sont au point et qu'ils sont même commandés, une fois qu'ils sont fabriqués et prêts à être livrés, il y a encore quelque chose qui peut arriver et qui fait que ça ne se passe pas comme prévu. Donc on est toujours en train de trouver des solutions à des petits dysfonctionnements. On ne fabrique pas des boulons, on fabrique des vêtements. Donc nécessairement, la chose est plus sujette à problématique.
C'est la vie de tout entrepreneur, ce n'est jamais un long fleuve tranquille.
Non, mais je pense que dans le textile, c'est encore plus intéressant.
Alors justement, qu'est-ce qui fait votre différence? Qu'est-ce qui fait le petit plus? Pourquoi on va aller s'habiller chez Bruno Saint-Hilaire?
Je pense que quel que soit le produit de notre gamme, il y a obligatoirement des valeurs ajoutées. Des valeurs ajoutées qui font qu'à un moment, le rapport qualité-prix du produit est intéressant. Ensuite, il y a une certaine fidélité à des méthodes de distribution. Nous passons par des spécialistes qui sont des multimarques dans chacune des villes de France.
Multimarques, c'est-à-dire ce sont des grands magasins?
C'est ni plus ni moins qu'un magasin dans lequel vous avez plusieurs marques. Au lieu d'être un magasin à l'enseigne seulement, on en parlera toujours plus tard car nous avons également des magasins à l'enseigne, ce sont des magasins qui représentent plusieurs marques et qui s'adressent à des clients pour leur proposer un choix. Et dans ce choix, il y a Bruno Saint-Hilaire. Et il y a Bruno Saint-Hilaire depuis très longtemps. C'est Saint-Hilaire est une marque qui a, je dirais depuis 73, un réseau de distribution multimarque, ouais. Donc indépendant, qui dans les villes de France et à l'étranger distribue la marque parmi d'autres. Sinon, nous avons des corners dans les grands magasins, en effet, et également quelques magasins à l'enseigne.
Vous avez quelle image ?
Je dirais une image de qualité, principalement, ouais. Et une image également de confort. Et une élégance à la française, je dirais actuelle, ouais. Mais sans chercher à être précurseur.
C'est-à-dire que vous avez su vous renouveler au fil des années, innover, de quelle manière ?
Absolument. Au départ, nous étions pantalonniers. Ouais. Très rapidement, nous avons acquis des spécialités dans la veste et le costume.
Toujours chez l'homme.
Mais tous ces produits, non, dans l'homme et dans la femme. Mm-hmm. Puisque pour la femme, au lieu de dire costume, on va dire tailleur. Ouais. Mais c'est rigoureusement le même vêtement.
C'est le même concept,
oui. Au départ, pantalonnier, très rapidement des vestes et des costumes, plus des tailleurs, mais toujours avec des particularités de confort au travers de l'extensibilité qui est dès le départ le lieu commun de tous les vêtements textiles Bruno Saint-Hilaire.
Alors extensibilité, c'est-à-dire on peut parler de stretch.
Les fils contiennent une âme lycra, ouais. Qui procure un confort inégalé et en chaîne ou en trame, c'est-à-dire dans un sens ou dans l'autre, parfois et souvent dans les deux, le tissu utilisé pour fabriquer le vêtement est extensible. Extensible, c'est stretch, oui. Mmh, on dit extensible pour parler français, mais c'est stretch.
C'est ça, tout à fait.
Les gens disent stretch.
Alors, comment vous pourriez qualifier le secteur du textile aujourd'hui en France ? Il est à la peine ou il est à la relance ?
Il est à la peine. Définitivement, je dirais qu'il y a quelques exceptions, qui sont souvent des exceptions liées à la puissance de la distribution, mais les produits se revendent souvent avec des promotions ou en solde, et je dirais plutôt en promotion qu'en solde, puisque les soldes aujourd'hui sont de moins en moins efficaces. Je dirais que la promotion tout au long de la saison est quelque chose qui trouble passablement la distribution, ouais. Et la réussite du textile.
C'est ça.
En général.
Et au niveau de la fabrication, là on est plus dans la distribution, mais de la fabrication, on voit arriver de petites entreprises,
tout
de petites entités qui refont par exemple du jean, je pense au jean de Nîmes ou 1083.
Oui, tout à fait. Alors vous voulez dire des entreprises qui retravaillent avec des spécialités plus françaises.
Voilà,
tout à fait.
Qui alors, relocalisent.
Il est évident que la relocalisation totale et entière semble difficile, ouais. Parce que même si les consommateurs sont prêts à payer plus cher, ils ne sont pas payés à payer 4 ou 5 fois plus
c'est
cher.
Ça.
Or, on est dans des exigences sociales en France qui font que les salaires sont à un niveau beaucoup plus élevé que les pays dans lesquels nous fabriquons et qui sont pourtant des pays européens. À savoir que Saint-Hilaire, depuis de très très nombreuses années, par exemple, travaille dans des pays européens dans lesquels les salaires augmentent, mais qui sont des salaires qui sont quand même inférieurs à ceux qui sont pratiqués en France, ce qui fait qu'on a un prix de revient qui nous permet d'être à un prix tout à fait compétitif. Aujourd'hui, relocaliser 100% de la production me paraît difficile. Mmh. En revanche, j'ai bien l'intention de relocaliser une partie de cette production sur des produits à forte valeur ajoutée pour lesquels le prix de revient industriel serait moins pénalisant dans le prix de vente public.
Sur quel type de produits ?
On peut penser à des pantalons de golf, par exemple, ouais. Sur lesquels les particularités techniques recherchées pourraient permettre d'obtenir un prix plus élevé à la vente sans pénaliser les quantités vendues.
Ce serait un argument marketing de dire c'est du 100% français ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous, notre produit est considéré comme un produit français puisqu'il est, je dirais, conçu, réalisé, mis au point par un nombre de personnes employées en France, très important. Mais la partie production pure, réalisée dans des usines, dont certaines sont des usines qui travaillent avec nous depuis presque 20 ans, donc il y a une régularité si vous préférez, mais qui sont des produits des pays européens et non pas des produits des pays français.
Les élections présidentielles approchent, alors on ne va pas parler de politique, mais qu'auriez-vous à
pourquoi
dire,
pas
vous, en tant qu'entrepreneur du textile ?
Pourquoi pas ?
Une autre fois, on fera un débat.
Ouais.
Qu'auriez-vous à dire, vous, en tant qu'entrepreneur, au candidat à la présidentielle ? Votre souhait, votre rêve, allez.
Mon souhait est de simplifier le code du travail. Voilà, tout simplement. Pour que les gens soient tout aussi protégés, mais dans des systèmes qui soient pas des systèmes dévoyés. Et pour que les gens, à savoir les salariés, mais en même temps les entrepreneurs, puissent dialoguer beaucoup plus facilement dans un intérêt commun, alors qu'on a l'impression en ce moment que ce code du travail entretient une guerre permanente et qu'on est plus en train de jouer la protection à tout prix plutôt que la construction en commun.
Et dans votre univers, celui du textile ?
Je pense que c'est pas différent des autres univers. Ouais. C'est même pire.
Est-ce qu'il faudrait quelque
plus
chose d'une nouvelle...
Plus il y a de tension et plus la problématique est révélée. Comme en ce moment, le marché du textile est difficile. Vous avez certaines entreprises qui sont dans des difficultés absolues. Et la rigidité du code du travail font qu'elles vont mourir, tout simplement.
L'entreprise de textile, les
oui,
autres aussi.
Bien sûr, bien sûr. Regardez aujourd'hui la halle avec ses problèmes. Il y a eu certainement de mauvais choix de fait, mais c'est certainement pas la façon dont le dossier s'oriente qui va faire que les emplois vont être protégés. Je pense que ça va être un massacre. Cette rigidité du code du travail fait que, en fait, on n'arrive pas à reconstruire ou à repartir. Une fois que l'entreprise est un peu en difficulté, elle est prise dans les mailles d'une codification beaucoup trop importante qui fait qu'il n'y a plus de possibilité de réaction. Voilà.
On invitera les candidats à la présidentielle pour en débattre.
Oui, j'espère.
Vous restez avec nous, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Seconde partie de cette émission, bonjour Pierre-Yves Révillon.
Bonjour Doris.
Nous sommes en compagnie du Fabrice Dor, le PDG de l'entreprise Bruno Hiller. Pierre-Yves, vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Première question à notre invité.
J'ai envie de vous poser d'emblée la question des valeurs de l'entreprise. Quelles sont les trois grandes valeurs qui vous animent?
C'est assez simple puisque... En fait, la première fois que je me suis de nouveau, en tant que président, adressé à l'intégralité des employés présents sur le site de Balma, je leur ai parlé de rugby pendant une demi-heure. Donc, je crois que les valeurs sont tout simplement celles du rugby, la solidarité, l'esprit d'équipe... L'envie de gagner, c'est important aussi, la motivation, et puis le fait que on n'est rien seul. On n'est rien, mais rien seul, qui que l'on soit, quelles que soient les qualités que l'on peut avoir, seul, on n'arrive à rien. Et donc, je pense que le message est passé, je dirais, assez facilement. Et un deuxième message, peut-être un peu moins facile à faire passer, une sorte de notion de justice, à savoir récompenser les bons et je vais être très choquant, mais punir les méchants. Alors évidemment, on va être relativement magnanime. Un méchant, c'est quelqu'un qui trahit la cause, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe, c'est quelqu'un qui joue pour lui, c'est quelqu'un qui ne donne pas. Et il faut savoir donner pour recevoir. Dans l'entreprise aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc mes valeurs, elles sont très simples. Et c'est celles que j'essaie de faire adopter à chacun dans l'entreprise. Mais ça marche facilement, hein. Ce sont des belles valeurs, elles sont des valeurs qui sont plutôt positives. On a envie de se lever le matin quand on a ces valeurs-là. C'est facile d'aller bosser.
Vous voilà. Écoutez beaucoup vos salariés, vous échangez avec eux.
Alors,
vous avez le temps?
Je les écoute, oui. Alors le temps, absolument, parce qu'il faut arrêter avec cette notion de surtravail, de déborder, du temps on en a beaucoup, il suffit d'avoir un peu une bonne échelle de valeur, on parlait de valeur tout à l'heure, il faut avoir cette échelle de valeur, il faut savoir donner aussi, donc c'est vrai que les horaires sont pas forcément des horaires compatibles avec les 35 heures, je dirais même si on doublait on serait encore en dessous, mais faudrait aussi préciser ce qu'est le travail et ce qu'est la vie, si vous vous amusez au quotidien. Dans votre travail, c'est plus du travail, ça devient un hobby. Hein, c'est quand on est complètement dans l'idéal.
C'est ce qu'on dit à nos gosses, ça. Hein,
mais
il faut absolument que tu trouves ta voie,
mais oui, mais
que tu aimes.
Il faut remettre le goût du travail à l'honneur. Un spécialiste du plancher qui fait un plancher bien droit et magnifique, qui s'arrête, qui met les mains sur les hanches, qui le regarde et qui dit « Bah celui-là, il est magnifique
».
Et quand le gars arrive et qu'il va le payer pour le plancher, bah il discute pas. C'est tellement... remarquable le boulot qui a été fait, qu'il n'y a même pas de discussion, on ne parle pas de concurrence, on ne parle pas de marge trop importante, on ne parle pas de tout ça. Voilà, donc c'est ma réponse.
Pierre-Yves.
Alors, ces valeurs, est-ce que... J'ai vu sur votre site internet des choses très intéressantes sur des métiers qui interviennent dans votre entreprise. Il y a les tisseurs, il y a les façonniers, etc. À propos des façonniers, vous dites « Les critères de choix sont d'ordre technique, logistique et organisationnel, mais aussi liés à des notions de relations humaines ». Qu'est-ce
Tout
que
à
vous
fait.
Mettez derrière ça
C'est simple, une compréhension mutuelle, une sorte d'honnêteté dans les rapports. On peut avoir à un moment des difficultés, on les exprime, on partage. Vous savez, l'entreprise a un moment traversé une crise tellement importante que s'il n'y avait pas eu des gens pour lui faire confiance, eh bien, elle serait pas là aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, lorsqu'on fait des choix sur nos fournisseurs, on fait des choix qui correspondent à ces valeurs, à savoir, lorsqu'on a été soutenu, eh bien, on va les mettre en premier sur la liste des fournisseurs avec lesquels on a envie de continuer à travailler. Alors évidemment, jusqu'à ce que on ne puisse plus, à savoir si les tarifs sont trop élevés, leur marge trop importante et qu'ils nous mettent en danger, à ce moment-là, on va remettre les choses au point. Mais on va le faire en toute transparence. Et donc, vous voyez que de nouveau, on applique nos valeurs, puisqu'on va leur parler, leur expliquer, essayer de trouver un chemin qui soit commun.
Alors, vis-à-vis d'autres acteurs, finalement, et probablement les plus importants, les clients, vous dites que vous êtes à l'écoute des clients au quotidien.
Oui.
Comment ?
Alors, c'est d'abord la première chose qu'il faut savoir, c'est que le vrai patron d'une entreprise, c'est certainement pas moi, c'est le client. C'est le seul qui peut virer tout le monde, moi compris. C'est très vite fait. Plus de clients, plus de problèmes, plus d'entreprise. Faut trouver autre chose. Donc le client est certainement l'élément le plus important dans le système. Mais des clients, il y en a, je dirais, un certain nombre de catégories. On ne traite pas de la même façon Mirabel à Bergerac et Le Printemps. Et pourtant, les deux sont des clients. Les deux sont tout aussi importants pour nous. Mais on ne va pas travailler de la même façon avec ces catégories de clients différents. Donc la place du client est primordiale. Et puis l'écoute du client, ben c'est l'écoute des gens qui sont en contact avec lui, donc les vendeurs, l'écoute des personnes qui sont au téléphone chez nous et qui reçoivent leurs appels. C'est la lecture des messages sur Internet quand ils passent par Internet pour nous transmettre un message. C'est une sorte de bonne compréhension de leurs attentes et de leurs besoins. Et puis après, adapter l'entreprise à cela.
Parlons de vous, Fabrice. Vous êtes un professionnel du textile. Vous avez travaillé chez Dior, chez Burberry, notamment.
Non, alors Burberry, non. C'était une licence que j'ai lancée pour enfants, pour Burberry. Donc, j'ai pas travaillé pour Burberry. Mais enfin, d'une manière, oui, également. Puisque quand on a développé une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires sur une licence pour enfants en 2-3 ans au sein d'un groupe qui s'appelait Children Worldwide Fashion, qui était spécialiste des licences de vêtements pour enfants, avec un certain nombre de marques, dont Burberry, que nous avions lancé à l'époque. Donc j'avais été chargé du lancement de cette marque, en effet.
Alors que vous importez ces expériences sur un plan personnel?
J'ai eu Kawe également, et Caterpillar, ce qui est quand même un spectre assez large. Ça m'a permis justement de comprendre que, quels que soient les produits, l'esprit qui doit présider à la gestion d'une entreprise est souvent le même, et puis que les produits en revanche peuvent être très très différents entre une paire de souliers Caterpillar et une grenouillère pour enfants. Oui, c'est des souliers Caterpillar, évidemment, c'était pas les bulldozers. Entre une paire de souliers Caterpillar et une grenouillère pour enfants Baby Dior, il y a énormément de différences, tant sur le plan de la distribution que sur le plan de la conception, de la réalisation du produit. Donc ça m'a permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit, certainement.
Et une expérience aussi à l'international?
Oui, une grosse expérience à l'international, parce qu'à un moment c'était un peu ma spécialité.
Pour Bruno Saint-Hilaire, c'est important l'international?
Alors pour Bruno Saint-Hilaire, c'est très très important, puisqu'on n'en fait pas pratiquement, et qu'aujourd'hui on a un peu ce complexe-là. Disons que Bruno Saint-Hilaire a connu une exportation beaucoup plus forte que celle qu'elle a aujourd'hui, mais il a fallu, je pense, reconstruire l'entreprise parfaitement et lui rendre une certaine solidité avant de se relancer vers la conquête de marchés export. Donc aujourd'hui, on a un export qui est très européen, Belgique, Angleterre, on va reconstruire l'Espagne certainement. Je pense que dans un premier temps, nous serons sur ces pays-là, mais également vers des pays beaucoup beaucoup plus lointains, la Chine, le Moyen-Orient, qui sont certainement des pays qui peuvent créer des appels d'air importants au niveau de notre développement dans les prochaines années. En tout cas, j'y travaille déjà.
Non, c'est très intéressant. Pierre-Yves.
Si j'ai bien compris, vous avez beaucoup misé sur le Made in France.
Oui.
Et avec tout ce qui va avec, hein, un savoir-faire, des valeurs, l'élégance française,
oui, mais
etc.,
alors,
etc.
Une des valeurs, c'est l'honnêteté. Donc notre produit n'est pas Made in France. Je dirais que notre produit est une conception, d'une réalisation, d'une mise au point qui est extrêmement Made in France, avec des particularités Made in France, avec des savoir-faire qui nous appartiennent et que personne d'autre n'a à ce point-là. Mais la dernière partie qui est l'assemblage, je dirais, la fabrication même du produit, se fait dans des ateliers où nous avons nos contrôleurs, notre direction de fabrication, nos responsables de fabrication, mais les ouvriers qui sont derrière les machines ne sont pas français, ils sont européens. En même temps, quelque part, n'est-ce pas une conscience à commencer à apprendre, à savoir parler Europe au lieu de parler franco-français.
Vous êtes un Européen convaincu.
Demain, je trouve qu'en aidant des Roumains à travailler, à se reconstruire, à se développer, à rejoindre des lois sociales qui sont pas très loin des nôtres aujourd'hui, je pense qu'on participe à une œuvre commune et que notre Made in France, pour une grande part, se complète complètement avec le Made in Europe.
Mais quand vous entendez des chefs d'entreprise, éventuellement dans votre secteur textile, qui disent on n'a pas d'autre choix que d'aller faire tout fabriquer dans des pays à très bas coût, qu'est-ce que vous leur dites ?
Non, je pense que leur principal défaut, c'est d'exporter la totalité de leur savoir-faire. À savoir qu'en France, ils n'ont plus que la distribution. Nous avons encore les modélistes, les stylistes, les responsables de collection, les jeunes femmes qui travaillent ou les hommes qui travaillent derrière cette conception et cette réalisation sont nombreux et représentent une part importante de l'investissement dans le prix de revient industriel. Donc c'est important de savoir qu'il n'y a pas que la personne qui pousse le tissu derrière la machine qui rentre en ligne de compte. Et aujourd'hui, quand vous entendez parler des startups qui parlent de produits français, les composants électroniques, ils viennent d'ailleurs. Et c'est pas pour autant qu'on ne dit pas que ces produits sont des produits français. Donc la nuance est très difficile. Aujourd'hui, on a une centaine d'emplois, on en aura peut-être 150 d'ici quelques années ou 200. Ce sera grâce à ça.
Si j'ai bien compris, la fibre textile que vous utilisez, elle est très innovante, elle est très particulière. Est-ce qu'il y a des concurrents au niveau international ?
Oui, il y a des concurrents, mais la différence avec ces concurrents, c'est que nous regroupons plusieurs valeurs ajoutées. Un costume Saint-Hilaire, il est anti-tache. On se renverse le café le matin.
Ça arrive qu'aux hommes, ça. Hein
oui, hein, ça arrive à tout le monde. Le tailleur également est anti-tache. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même démarche. Donc, vous voyez, pour une fois, vous pouvez pas me coincer.
Non, ça,
voilà.
Clair.
Ensuite, il est bi-extensible, donc d'un confort inégalé. Il est infroissable. Donc, le matin, quand vous partez pour 3 jours et que vous avez des rendez-vous partout avec des réunions, vous avez un seul costume. Si on vous renverse un café dessus, banco, il est anti-tache. Donc, vous continuez à le mettre. Et puis, vous êtes toujours impeccable. Aujourd'hui, quand vous travaillez sur des compagnies aériennes, quelles qu'elles soient, vous ne pouvez voyager qu'avec une petite valise, sinon il y a 3/4 d'heure, 1 heure d'attente pour les bagages à l'arrivée. Donc vous voyagez avec un seul costume, des culottes, des slips, des chemises,
c'est
des cravates et la trousse
ouais.
de toilette dans la valise, mais certainement pas de costume. Donc avec un costume Saint-Hilaire, vous êtes élégant du matin au soir, vous pouvez partir 3 jours et c'est la différence.
Il nous a fait une pub magnifique. Magnifique le slogan.
C'est pas une pub
avec
magnifique, c'est
élégant,
juste le reflet de la réalité. D'ailleurs, je suis étonné qu'on fasse pas la queue à l'usine pour nous demander ces produits-là, qu'on soit encore obligé de les vendre.
Merci Fabrice Dor. Merci pour votre enthousiasme. On peut vous joindre, donner l'adresse de votre site internet.
Oui, alors
c'est très facile.
Bruno-Saint-Hilaire.
Merci à vous, merci Pierre-Yves Révillon. Vous souhaitez nous contacter, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.